Blanchette qui est en studio avec nous, il est chef du Bloc québécois. C'est un plaisir de vous avoir en studio avec nous, M. Blanchette.
C'est un plaisir pour moi aussi. Ça me rappelle des souvenirs à l'époque où je faisais de la chronique avec Stéphane Gasse.
La belle
dans
grosse
ce même
voix,
studio. Ben
oui. Gasse. Vous aviez deux belles voix à l'époque. Ben vous,
c'est
vous avez encore conservé votre voix.
Ouais, c'est ça. C'est,
ben, j'imagine que Stéphane aussi. Ouais. Il y avait Jacques Dupuis qui était mon vis-à-vis.
Exact, exact. Qu'est-ce qui vous amène à Québec, M. Blanchette?
Ça faisait un bout, je n'étais pas venu. D'ailleurs, j'ai texté à ma blonde qui était à l'hôtel quand on est arrivé. Mon Dieu, c'est tellement... Puis j'ai la chance, j'ai voyagé un peu, c'est une des plus belles villes. Mais je ne suis pas venu parce que c'est une des plus belles villes, mais je me redis que c'est une ville absolument magnifique. Bien sûr, il y a ses poches de pauvreté, il y a tout ça. Puis je suis venu parce que je n'étais pas venu depuis un certain temps. Il y a des gens à voir, le maire de Québec, la consul des États-Unis. Je suis allé à l'Aubrivière, je suis rencontré le chef de Wendake sur l'enjeu de la statue. Beaucoup de rencontres en quatre jours, assez compact, là, un gros agenda qui valait la peine.
Okay. Il jase de quoi, Yves-François Blanchette, avec le monsieur des États-Unis?
En fait, c'est... On est dans le domaine plus diplomatique, on fait toujours attention. La relation avec l'ambassadeur extra, elle est assez moyenne parce que c'est pas un diplomate de carrière et ses sorties publiques sont assez impétueuses.
Exact.
C'est comme une version parachutée à Ottawa d'un ami ou un proche, au moins au niveau philosophique de Donald Trump. Et il répète des trucs, puis tu dis oui, mais on va être obligé d'exprimer notre désaccord. Au point où, bon, j'étais content de rencontrer la consul qui est une collaboratrice, forcément, de l'ambassadeur, mais qui est une diplomate de carrière aussi. Et je veux, en tout respect pour les deux, utiliser le canal pour dire, OK, il y a des différences québécoises. Les approches canadiennes présentement face aux États-Unis laissent de côté tant l'aluminium que la forêt, que l'enjeu très particulier des arts et de la culture au Québec, l'aérospatial, les pêcheries. Ce qui fait que l'économie québécoise est différente de l'économie canadienne n'est pas prise en compte, même qu'à date, j'ai peur pour la gestion de l'offre, mais au moins sur l'enjeu des arts, c'est 3,4 milliards de dollars par année que le gouvernement de M. Carney a dit « Moi, je renonce à cet argent-là qui va rester aux États-Unis dans des compagnies qui ne paient pas d'impôts au Canada. » Parce que je veux avoir une bonne position de négociation, mais qui va souffrir le plus de ça, c'est les arts, la culture et les médias, en particulier dans les régions francophones du Québec. On n'est pas une monnaie d'échange, puis on n'est pas non plus une grosse poche de financement pour les oléoducs de l'Ouest canadien. Et pour l'instant, c'est un peu l'impression qu'on a, même si M. Carney marche littéralement sur l'eau, parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, que ce soit un problème de commerce ou maintenant parce qu'il y a mal au genou, c'est la faute à Donald Trump.
Ouais. On en parlera d'ailleurs de cette popularité-là dans les prochaines secondes. Votre bilan de la dernière session, si je vous demandais votre top 3, là.
Bien, il y a plusieurs affaires. De un, on a fait passer l'idée que la religion ne peut pas être une exception en matière de propagande haineuse. Rappelez-vous d'Adil Sharkawi qui pouvait inviter les gens au meurtre littéralement ou à l'extermination de la population juive en Israël. Puis c'était pas criminel parce qu'il le faisait en invoquant des écritures
dans la religion.
Religieuses. Ça, au moins, on a gagné ça.
Sharkawi, c'est-tu un agent du SCRS? Il fournit-tu des renseignements? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce gars-là est encore capable
de faire
ces
affaires-là? Si c'était le cas, il nous le dirait certainement pas. Mais vous savez, il y a à peu près 350 000 musulmans au Québec. La quasi-totalité d'entre eux autres, ils vivent comme vous et moi.
Exact.
Ils font leur
vraiment
vie, puis ils travaillent, puis ils payent leurs impôts. Puis leur religion, c'est dans leur vie privée. Mais il y a un tout petit nombre de musulmans radicalisés, très probablement sous influence étrangère, on pourrait directement nommer l'Iran dans ce processus-là, qui font de l'énorme provocation ou qui mettent de l'avant un agenda politique islamique qui n'a rien à voir avec le quotidien des citoyens québécois qui sont de confession musulmane, comme moi, je suis pas de confession catholique, parce que je suis pas ni croyant ni pratiquant, mais bon, mon ascendance est catholique. Et ça propage des préjugés contre les populations immigrantes. Ça ne nous sert pas. On est dans la région de Québec, là, on sait comment c'est important. Des gens qui arrivent d'ailleurs au monde, qui viennent travailler ici, qui essaient de faire leur vie ici. Des fois, c'est temporaire. Des fois, ils veulent que ça devienne permanent. Et une mauvaise gestion de ça fait en sorte qu'il y a des préjugés qui se développent. Et ça ne sert ni ceux qui choisissent de venir vivre au Québec, qui pour moi sont aussi Québécois que moi, ni ceux qui les accueillent, ni nous autres.
Deux autres choses du Bloc québécois?
OK, j'ai envie de parler de la gestion de l'offre parce que c'est un énorme gain. Je le crois menacé. Je crains qu'avec la pression américaine, le gouvernement canadien n'insère dans une énorme loi de mise en œuvre d'un futur hypothétique accord commercial des sacrifices à gestion de l'offre et que ça passerait un peu, pas inaperçu parce qu'on va s'en occuper, mais ça forcerait à avaler la pilule et ça nuirait à la gestion de l'offre qui est le fondement de notre économie.
La gestion de l'offre, ça aide qui et ça nuit à qui?
C'est un modèle qui assure des produits de plus grosse, de plus haute qualité, des produits à prix préétabli, qui maintient un modèle agricole qui est propre au Québec, en bonne partie en Ontario, où ce n'est pas des fermes de 10 000 têtes comme aux États-Unis. C'est des fermes, écoute, la plus grosse ferme au Québec dépasse à peine 1000 têtes.
On comprend que les producteurs ne vivent pas sur l'or. J'ai plus l'impression, moi, que c'est les sapoteaux de ce monde qui font un max de profit.
En fait, à l'heure actuelle, le gouvernement américain essaie de briser une partie de la gestion de l'offre qui leur permettrait de commercialiser directement avec les grandes surfaces sans passer par les transformateurs québécois. Donc ça, je pense que ce serait pas bon pour Saputo.
Ça serait pas bon pour Saputo.
Non, ça serait pas bon pour Saputo. Mais oui, il y a une concentration de l'industrie. De la même manière qu'il y a cinq fois moins de fermes laitières au Québec aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 80 pour la même production. Il y a une concentration, puis la concentration sert pas ce fameux modèle-là québécois de production agricole.
Selon vous, demain matin, on abolit la gestion de l'offre. Qu'est-ce qui pourrait arriver à nos agriculteurs?
Le modèle actuel écrase complètement. Donc, il faudrait qu'il y ait des rachats massifs. Ensuite de ça, on n'est plus capable de protéger le niveau de qualité. Tu sais, au Québec, on n'a pas le droit d'utiliser certains types d'antibiotiques, certains types d'hormones. On protège la qualité du lait qu'on met sur les tablettes dans nos commerces. Ça, on serait obligé de lâcher ça. Déjà qu'on a un désavantage climatique, ça coûte plus cher exploiter une ferme au Québec qu'aux États-Unis parce qu'il fait plus froid, parce qu'il faut chauffer, parce que nos enjeux ou nos règles environnementales sont plus sévères. Mais là, on ne sera pas capable d'être compétitif. En contrepartie...
Les règles environnementales plus sévères, Mark Carney n'a pas revu ça là, dans les dernières semaines?
Pas dans le secteur alimentaire ou agroalimentaire
ça
pour l'instant.
Ça touche pas ça.
Puis c'est beaucoup, c'est en partie au moins québécois. Une autre affaire qui arriverait, puis les Américains ne casseront pas entièrement la gestion de l'offre, c'est que dans des grands territoires comme le Manitoba ou l'Alberta ou la Saskatchewan, ils vont développer d'énormes fermes laitières dans un modèle plus proche du modèle américain qui deviendrait un concurrent des Américains sur le marché américain. Fait qu'ils veulent pas casser complètement le système, ils veulent manger des points. Mais le point, deux points, trois points de pourcentage de production, bien, c'est la mini-marge de manœuvre, la toute petite rentabilité de la production laitière et dans une moindre mesure d'œufs ou de volailles au Québec qui part aux États-Unis ou qui part à l'étranger parce qu'il y en a aussi avec l'Europe. Et ça, bien, il y a des entreprises qui ne peuvent pas passer au travers.
Et une troisième chose, Yves-François Blanchet.
Bien, si on n'était pas là, je vous laisse imaginer comment le gouvernement canadien ferait ce qu'il veut en matière de laïcité ou en matière de langue française. Si on n'était pas là pour les obliger à faire au moins un peu attention, ce serait épouvantable. Si on n'était pas là pour dire, écoutez, vous prenez l'argent des Québécois pour contester en Cour suprême une loi qui est largement consensuelle au Québec, que ce soit la laïcité.
Craignez-vous le résultat en Cour suprême, justement? Bon, on est toujours en attente, là.
Ça peut être gagnant-gagnant. Si la Cour suprême tranche en faveur de la décision de l'Assemblée nationale du Québec, qui est d'ailleurs unanime sur le fait qu'on a le droit de prendre cette décision-là nous-mêmes, ben on va dire, OK, on a comme un gain, un sursis. Si elle tranche contre, mais il y a une indication que les institutions du Canada se prononcent et se manifestent à l'encontre de ce que les Québécois considèrent comme étant leur identité ou leurs intérêts.
Les oléoducs, bon, vous êtes déjà positionné pour l'oléoduc qu'on était supposé d'avoir au Québec, là, l'Alberta qui veut son oléoduc, vous vous positionnez où?
En fait, on n'a jamais vraiment passé proche d'avoir un oléoduc au Québec parce qu'il n'y a personne. T'sais, on est dans une business. Là. Le pétrole, s'il y a une business qui est business puis qui veut du cash, c'est bien ça. Et il n'y a personne dans le secteur privé qui est prêt à payer pour un oléoduc. Fait que s'ils ne sont pas prêts à payer pour un oléoduc qui s'en va sur la côte ouest du Canada, il n'y a personne qui aurait payé pour un oléoduc qui aurait traversé le Québec. C'est de l'argent public. C'est de l'argent qui va venir des poches des Québécois et des Canadiens. Mais dans notre cas, ça ne nous donne rien. Et quand on nous dit « oui, mais attention, ils vont payer des impôts, ces gens-là », ça va coûter 100 milliards. 100 milliards de dollars dans le développement des oléoducs vers le Pacifique. Bien, notre part, c'est 20 milliards. Imaginez ce qu'on fait pour notre propre économie, la transformation de nos propres ressources.
Mais c'est pas bon pour les Canadiens, ça?
C'est pas bon pour les Canadiens à partir du moment où le dommage causé par le changement climatique coûte plus cher que tout ce que peut rapporter l'exploitation du pétrole.
Est-ce que vous êtes très environnementaliste, là, puis c'est tout à votre honneur, là. Moi, je le suis à ma façon, mais je regarde le pourcentage que peut avoir le Canada sur la terre entière. Il est minime, puis j'ai l'impression qu'on paye plus que notre portion à nous, puis qu'on fait encore plus attention qu'on devrait faire attention.
On doit faire attention, puis on fait peut-être plus attention que d'autres endroits, puis le Québec fait plus attention que d'autres endroits en Amérique.
Vous n'avez pas une vision un peu extrémiste par rapport à l'environnement?
Si, on est loin de l'extrême. On le voit au quotidien. On voit les enjeux puis les coûts des changements climatiques au quotidien. Puis ça coûte plus cher que ce que nous rapporte le pétrole. Et il existe d'autres modèles économiques qui créent davantage de richesses avec la transformation de nos propres ressources, avec une économie qui est valable à long terme. Parce que l'Europe se retire de la consommation de pétrole progressivement. La Chine se retire de la consommation de pétrole progressivement. C'est pour ça qu'ils se précipitent, là. Dans quelques dizaines d'années, le marché du gaz naturel moins, du pétrole beaucoup, va s'être beaucoup écrasé. Et dans l'intervalle, nous, on aurait la possibilité de développer nos propres industries. Ouais. Tu sais, l'économie de Québec est une économie qui performe extrêmement bien. C'est certainement pas à cause du pétrole. C'est un modèle qu'on peut reproduire partout en développant notre propre économie.
Ben, il y a énormément de fonctionnaires, on ne se le cachera pas, municipal, provincial,
fédéral. Le dynamisme entrepreneurial de la région de Québec est assez remarquable.
On a la base militaire aussi, on a des compagnies d'assurance. On est isolé puis on est chanceux de l'être.
Il y a peu de villes au Québec qui ont très peu de services publics. Hein. Bon, Victoriaville a très peu de services publics de l'État. Drummondville a très peu de services publics de l'État. Et Drummondville a aussi, avec très peu de services publics, de grands bureaux de fonctionnaires, c'est une des économies les plus florissantes au Québec aussi. On a notre propre modèle qui est souvent basé sur la petite et moyenne entreprise, très innovante, qui vise directement le marché américain et qui, malgré les enjeux actuels, réussit à performer sur le marché américain. Et ça ne nous donne rien de prendre l'argent qu'on pourrait investir là-dedans et dans nos centres de recherche et dans notre innovation pour l'envoyer faire des tuyaux et sortir du pétrole qui est l'économie d'hier et qui a des impacts très négatifs.
On remplace ça par quoi, le pétrole?
On remplace ça par toutes les énergies renouvelables, selon où on est.
Comme
exemple, au Québec, le nucléaire, on n'en a pas besoin, puis là, l'autorisation
Pourquoi
est donnée.
Pourquoi on n'a pas de besoin du nucléaire? C'est le plus fiable. Tous les autres pays s'en vont là-dedans.
C'est aussi dangereux. Tu fais un ratio, rapport.
On n'est plus dans l'ancien nucléaire, M. Blanchette.
Il n'existe pas de nucléaire.
Il y en a 19 réacteurs nucléaires au Canada, on n'entend jamais parler.
Il n'existe pas de nucléaire qui soit sans conséquence. On entend certainement parler des déchets nucléaires de Chalk River, qui sont considérés par bien des gens, parce qu'ils sont à 2 km de la rivière des Outaouais, comme risquant de contaminer l'eau potable de 1,2 million de personnes, d'une part. D'autre part, c'est les déchets des centrales nucléaires. Quand ils vont démanteler Gentilly, il faut qu'ils déplacent et qu'ils enfouissent des déchets nucléaires qui vont rester radioactifs
mais
pendant des milliers d'années.
Avec le nouveau nucléaire, c'est la façon la plus environnementale. Puis vous êtes un environnementaliste, là. Les experts s'entendent tous là-dessus pour dire que c'est la façon la plus environnementale de produire de l'électricité au niveau mondial.
Je vous ramène à ma première
phrase. Mais nous, est gouverné par la peur, M. Blanchet.
Le Québec n'a pas besoin de ça parce qu'on a en masse d'alternatives en énergie renouvelable qui ne sont pas avec les dangers nucléaires.
On inonde des forêts.
Mais je dis souvent, d'ailleurs, quand je les rencontre, parce que je rencontre beaucoup les ambassadeurs, je comprends que le Japon ait recours au nucléaire. Je comprends que la France ait recours au
L'Ontario?
Nucléaire. Autre débat, mais peut-être. À la limite, la décision leur appartient. Le Québec n'a pas besoin de ça parce qu'on a la chance, on n'a pas de mérite. On a la chance d'être le paradis de l'énergie propre au monde.
Oui, mais on manque d'électricité.
Parce qu'on n'a pas fait le développement de notre potentiel électrique dans les dernières années. On a accumulé beaucoup de retard.
On passe à côté des éoliennes, puis on est là... On manque de vent.
En fait, les éoliennes sont une des sources...
On inonde des territoires.
C'est une des sources d'énergie possibles, les éoliennes, qui ont des enjeux d'intermittence. Il y a des technologies qui se développent qui permettent d'accumuler ou de stabiliser la production ou le stockage de l'énergie produite par les éoliennes. Hydro-Québec est capable de développer un plan pour avoir les besoins électrique du Québec jusqu'en 2050 sans recourir au nucléaire. On n'en a pas besoin. Pourquoi créer des déchets radioactifs pour des milliers d'années alors que nous, on n'a pas besoin de ça? Je comprends que d'autres en aient besoin. Je ne le leur reproche pas. Ils en ont besoin. Ils n'ont pas d'alternative à ça. De la même manière que jusqu'à nouvel ordre, il y a des communautés dans le Grand Nord du Québec qui font encore de l'électricité avec du diesel parce qu'on ne leur a pas encore fourni des alternatives à ça.
Grosse île.
Il faut progresser. Il faut progresser, pas... Je n'ai jamais demandé, même quand j'étais en environnement, j'ai jamais demandé une rupture complète avec le pétrole. C'est une transition. Il ne faut pas aller vers plus de pétrole, il faut aller vers moins, progressivement, pendant qu'on développe autre chose qui est aussi performant au niveau énergétique, mais qui n'a pas les mêmes conséquences environnementales, puis qui, en plus, permet au Québec, qui est très fort dans ce secteur-là, d'exporter des technologies et d'exporter des connaissances. Je rencontrais encore récemment le promoteur d'un projet d'hydrolienne qui a déménagé sa recherche en Allemagne parce qu'il n'y avait pas de support au Québec, qui revient ouais. sur le marché québécois avec une technologie qui peut être utile partout à travers le monde, ouais. mais qu'on a boudé parce qu'on investissait dans des technologies souvent du passé.
C'est les îles de la Madeleine hein, qui fonctionnent encore au diesel.
Oui, là, il y a une augmentation de l'énergie verte aux îles de la Madeleine, puis ils sont très, très performants dans la façon dont ils gèrent leur capacité électrique. Mais aux îles de la Madeleine, c'est un sacré défi.
Qu'est-ce que vous pensez?
Il n'y a pas de terre pour planter beaucoup d'éoliennes.
Vous êtes un homme qui voyage avec votre travail, bien entendu. Qu'est-ce que vous pensez du TGV qu'on veut bâtir?
J'étais en faveur du TGV avant les libéraux.
Vous étiez en faveur?
Oui. Les libéraux parlaient d'un TGF qui est un train à grande fréquence, ça ne veut rien dire, ça n'existe pas. Je suis en faveur du principe. J'ai des doutes sur la manière. Si tu as une bonne idée, puis tu dis, écoutez, il y a des mécanismes qui existent depuis longtemps, évaluation environnementale, étude d'impact, comment ça va coûter, une étude indépendante sur le prix, tout ça est normal. Tu fais ça dans une société correcte, puis tu dis, on s'en va par là, on a parlé aux gens, on a créé le consensus, on n'exproprie pas sauvagement les gens, on fait des ententes de gré à gré, il y a des mécanismes d'arbitrage quand on n'est pas d'accord pour la manière d'enlever littéralement un bout de terrain ou la terre ou la propriété de quelqu'un. On ne prend pas une emprise de 10 km quand on a besoin de 60 mètres. C'est la manière qui nous dérange. On a dit, voici les conditions. Puis si vous rencontrez les conditions, on est parlable. On était en faveur de ça pendant que François-Philippe Champagne nous parlait d'un TGF qui allait arrêter à Trois-Rivières puis à Shawinigan, puis ce que tu voudras. Donc, cette réalité-là, elle est encore là, mais ils ont travaillé pour... Les libéraux ont travaillé de telle sorte qu'ils voulaient dire « on a d'autres gros projets que le pétrole ». Fait que là, on va dire que Contrecoeur, qui était déjà pratiquement réglé comme dossier, ben on va en faire un de nos grands projets nationaux. Puis le train, on va dire « t'as pas 10 ans pour te préparer comme tu pensais avoir » parce qu'à l'époque, Martin Imbleau d'Alto m'avait dit « ah, avant 10 ans, tu verras rien ». Mais là, on est rendu à 5 ans, puis pour que ça puisse être 5 ans, on suspend, c'est pas rien là, on fait une loi pour suspendre l'application des lois pour être capable de faire passer un projet.
Mais Alto travaille-t-il de la bonne façon? Il y a énormément de gens là, il y a des gros salaires, je vois pas beaucoup de résultats.
C'est le grand risque auquel le gouvernement de M. Carney s'expose. Dans 3 ans ou plus tard, 3 ans et demi, il va être en élection. Il n'y aura rien à montrer. Il n'aura pas posé un rail. Ils ne savent pas d'ailleurs d'où vont venir les rails parce qu'il ne se produit pas de rails de train au Canada et il n'y a pas assez de marché pour le faire.
Mm-hmm.
D'où vont venir les rails est un premier enjeu qui nous amène probablement après 2029. À cette époque-là, donc, le gouvernement Carney va avoir à montrer rien en termes de résultats sur le train, mais un gros paquet d'expropriations. Puis tout le long du tracé, des milliers de propriétaires en beau maudit. C'est pas très habile. Il devrait avoir une négociation pour aller chercher l'acceptabilité sociale, puis l'interlocuteur. Puis ils le savent, le premier ministre le sait. Moi, je suis parlable. Mais on va avoir des conditions qui imposent le respect des producteurs agricoles, le respect. Il n'y a pas d'énormes enjeux environnementaux, mais il y en a. Est-ce qu'on peut les regarder? Mon approche, c'est pas de dire « je vais m'objecter à ceci ou cela ». C'est « quelles sont les conditions pour qu'on puisse le faire ».
Ce que je comprends, c'est que...
C'est vrai pour le port de Québec, ouais. C'est vrai pour les grands projets, c'est vrai pour Contrecoeur. Mm-hmm. Quels sont les... Puis je disais ça
ouais,
quand
mais ce que
ministre.
Je comprends, c'est que vous, il n'y a pas de problème que ça passe par Mirabel. Il faut juste faire les choses de la bonne façon avec les agriculteurs qui sont là.
Oui, mais là, sur Mirabel, il y avait un problème, une plaie encore ouverte. Ils sont tombés d'un pâte de gens dont les enfants, c'est leurs parents ou leurs grands-parents qui ont subi les expropriations de Pierre Trudeau pour un aéroport ouais. qui est devenu un éléphant blanc. Là, ils sont
il y a encore cette crainte-là.
Il y a cette crainte-là, elle est majeure. Il y a un manque de sensibilité qui est important. Puis, quand tu fais de la politique, tu es au service du monde. Tu n'es pas contre le mm-hmm. monde. Tu es censé d'être à l'écoute, d'aller les voir, de leur parler. Ils disent, on a fait des consultations, il y a eu des dizaines de milliers de personnes. Un instant. Ils ont mis des pancartes dans des salles, ils ont invité le monde à venir regarder les pancartes, puis ils considèrent que n'importe qui a regardé la pancarte a été consulté. C'est pas ça, des consultations. Mm-hmm. C'est une conversation pour arriver à... Tu n'auras pas le consensus, tu n'auras pas un appui global. Consensus, peut-être, unanimité, jamais. C'est-à-dire, ici, on les a, les dossiers à Québec, là, qu'on parle du très hypothétique 14e fois, 3e lien, ou qu'on parle du tramway qui va se réaliser. on construit, puis on prend une décision après avoir parlé au monde. Dieu sait qu'on en a parlé longtemps.
Trop longtemps à Québec, là?
Je peux pas me prononcer si c'est trop longtemps. Ouais. C'est long construire parce que ma compréhension, c'est que Québec, c'est pas homogène. Le littoral de Québec, c'est une chose. Certains secteurs de la ville, c'est une chose.
En effet.
En périphérie, c'en est un autre. Tu vas sur la rive sud, c'est complètement autre chose encore. Donc, où sont les appuis? Où sont les oppositions?
Non, en effet, tu as deux villes en un. Là, en centre-ville,
toutes les banlieues. Tous les politiciens sont pour le tramway, pour la plupart. Par contre, la population ne veut pas nécessairement en majorité du tramway. Il y a 30 à 40 des gens qui veulent du tramway. Et pour ce qui est du troisième lien, mais là, c'est tout le contraire. Les politiciens ne veulent pas et on a des citoyens qui le veulent en majorité.
C'est effectivement assez particulier. Je pense qu'il y a une notion, moi, ça me touche moins parce que c'est clairement Québec, à Québec et dans la ville de Québec, il y a une notion de politique partisane qui embarque là-dedans, hein, au point où on peut mettre sous respirateur artificiel un projet dont je ne gagerais pas 5 piastres qui va arriver un jour. Là.
Pour le troisième lien?
Moi, je ne gagerais pas 5 piastres que ça va exister. Mais j'ai déjà dit, écoutez, s'il y a du transport collectif, transport de centre-ville à centre-ville, moi, je trouvais qu'il y avait quelque chose là-dedans, mais ce n'était pas mes affaires. Je le disais, puis la première fois que je me suis prononcé ou j'ai parlé de l'idée, alors là, c'était la grosse affaire, c'était ma première campagne électorale. Il avait réussi à m'amener à parler de quelque chose de très controversé, ça ne finissait plus. Mais il faut qu'on donne la bonne information aux gens. Ça, c'est pas tout dire la même affaire, c'est donner l'ensemble des pour et des contre. Les gens se font une idée, puis après ça, les autorités politiques prennent une décision et vivent avec les conséquences. Ça va être vrai pour les libéraux fédéraux aussi, qui, exemple, encore sur le train, ou potentiellement sur le port, ou potentiellement ce qui va arriver avec QSL, tout ça va mener à des décisions et les citoyens vont porter un jugement lors du vote subséquent sur les décisions qui ont été prises.
Ouais.
C'est ça, la démocratie.
Quel est l'impact des lobbyistes qui tournent autour de vous, autour du gouvernement Carney, qui tournent au provincial, les lobbyistes qui sont inscrits en bonne et due forme, qui veulent faire passer leurs idées? Est-ce que ces gens-là ont plus d'impact que la population en général?
Dans mon cas, c'est assez peu, parce que je ne serai jamais premier ministre du Canada. Là. Donc, oui, je rencontre des lobbyistes, mais c'est pas la même
machine. Pensez que vous aviez des plus grandes aspirations que ça, vous me décevez.
Aspirations peut-être, Canada moins. Mais,
allez-vous être ministre futur pays du Québec?
Alors, ça va arriver, je ne sais pas exactement quand, mais, je verrai où je suis rendu
mais
dans ma vie.
Mais les lobbyistes, M. Blanchet?
Les lobbyistes, à l'époque, c'était assez notoire. Il y en a qui ont les numéros de téléphone assez directs du premier ministre du Canada.
Ça, ah
oui? Ah ben oui, c'est... Ils sont capables de leur parler à peu près comme ils veulent. Ils ont des canaux. C'est les géants d'Internet. Là. Des gens à qui on vient de donner congé de 2 milliards de dollars par année, de ne pas participer à la création de contenu québécois et canadien, et à qui on a donné un autre congé de 1,5 milliard par année sur la toute petite taxe de 3 % de leurs revenus, des entreprises américaines qui ne paient pas d'impôts au Canada. Donc, on vient lui donner 3,4 milliards de dollars par année. C'est parce qu'il y a des lobbyistes qui sont proches du cabinet du premier ministre. Et en passant, le premier ministre a des actions dans ces compagnies-là, ce qui le place dans une bien drôle de position. C'est qu'en donnant des congés de taxes ou de contributions à ces entreprises-là, il se trouve à protéger la valeur de ses propres actions. Est-ce que c'est son intention? Probablement pas. Est-ce que c'est un résultat mesurable? Oui.
Est-ce que... j'ai une multitude de questions à vous poser. Là. Je pourrais vous garder toute la journée. En plus, votre café n'est pas fini, fait qu'on a le temps en masse.
Pas de trouble.
OK. Mark Carney, au Québec, semble être extrêmement apprécié.
Ouais.
Il n'a pas de bilan à présenter. Il n'y a pas de bilan positif. Il a fait des trucs qui semblent plaire aux Québécois. Pourquoi, à votre avis?
Il y a une espèce d'effet... Moi, quand j'étais là, on parlait ça de l'effet Hagrid. Hein? C'était plus t'en manges parce qu'ils sont meilleurs. Parce que c'est une espèce de cercle vertueux. Là. Mark Carney est arrivé dans un contexte qui l'a rendu très populaire. Sa relative maladresse en termes de communication s'est estompée parce qu'il était en confiance, parce qu'il était populaire.
Ouais.
Et il est meilleur en communication. Il a l'air rassurant. Et à chaque fois qu'il y a un problème, quelle que soit la nature du problème, c'est la faute à Donald Trump. Parce que les Québécois et les Canadiens... déteste, c'est pas un jugement, c'est une observation, Donald Trump, il se protège avec ça.
Donc,
Donald Trump
est
le paratonnerre de Mark Carney.
Il y avait un vilain l'autre côté, puis Carney était vu un peu comme
le plus compétent pour faire face. Ah. Il avait, même s'il a fait plein de promesses dont aucune n'a été respectée à cet égard-là, M. Poilievre, à tort ou à raison, était perçu comme n'étant pas capable de faire ça. Puis, bien, moi, j'ai pas la prétention d'être premier ministre du Canada. Nos appuis à nous se sont maintenus beaucoup plus que ceux des conservateurs ou du NPD, parce que pour les Québécois, c'est, hey, en plus, nous autres, on a le Bloc québécois qui protège nos intérêts. Mais M. Carney a surfé sur un environnement, puis c'est toujours la même chose. Ah, ça n'a pas marché à cause de Donald Trump. C'est quoi la réponse? Investissons dans le pétrole. C'est ça la logique de Mark Carney. Et les gens, sans alternative réelle à ce moment-ci, marchent là-dedans. Tôt ou tard, l'absence de résultats en commerce, l'absence de résultats en diversification des marchés, parce que ça va prendre des années.
On ne sera jamais capable de se passer les
Américains. Même si quelqu'un est favorable aux oléoducs ou aux trains ou à ce que vous voudrez, avant 5, 8, 10, 12, 15 ans, ça n'existera pas. Ça n'aura pas d'impact sur notre économie. Et pendant ce temps-là, on n'a toujours rien fait pour les transformateurs d'aluminium. On n'a toujours rien fait pour l'industrie forestière, les entreprises forestières qui sont sous-traitantes. On n'a rien fait dans la plupart des secteurs en défense. Il y a quand même des investissements. Notre bataille, c'est que la part du Québec arrive au Québec parce qu'on est la province où l'industrie qui vit de la défense est la plus développée. Alors, il faut qu'on ait notre part.
Parce que là, l'ALENA, qui s'appelle maintenant l'ACEUM, le 1er juillet s'en vient, là, il semble y avoir rien de
rien, mais il n'y a jamais rien eu.
Donc, on va repartir sur une négociation année après année, jusqu'en 2036?
En fait, théoriquement, ça n'arrivera pas là. Théoriquement, si personne ne dit rien de façon officielle, c'est prolongé automatiquement pour 10 ou 7. Non, c'est pas un an.
C'est sûr,
un an,
ans.
C'est si tu dis « je veux le renégocier », là, c'est un an.
Exact.
Si tu dis rien pendant tout, c'est 10 ans. Puis M. Carney a proposé 16 ans,
42.
Le Mexique aussi.
Exact.
La réalité, c'est qu'ils ne laisseront pas les choses tomber à plat puis ça se renouvelle automatiquement. La Maison-Blanche ne laissera pas faire ça. Donc, il va y avoir une conversation, mais à laquelle M. Trump ne veut pas participer parce qu'il est, lui, directement en contact avec des lobbies. T'sais, justement, on parle encore des géants d'Internet. Ils payent sa salle de bal qui va coûter trois fois ce qu'il a promis qu'elle va coûter. Il en paye une partie, puis les Américains vont payer le reste. Il est très, très proche de certains lobbies. Le pont Gordier n'est pas ouvert en Ontario parce que le pont actuel est opéré par un proche de Donald Trump qui n'est pas content que son ami ait un concurrent relativement proche. Il y a dans la culture politique américaine une présence des intérêts particuliers par opposition aux intérêts de tout le monde, aux intérêts collectifs. Quelque chose qui occupe énormément d'espace et qui empêche la mise en place d'une entente commerciale, même si vous parlez à la Chambre de commerce des États-Unis, si vous parlez à la Chambre de commerce Canada-États-Unis, qui est une autre affaire à part, eux autres, ils disent exactement la même affaire que moi. Nous voulons une entente commerciale. Nous avons besoin d'une relation commerciale saine avec le Québec et le Canada. Nous avons hâte que ces négociations-là commencent et finissent. Il n'y a que l'idéologie de la Maison-Blanche qui empêche ça de progresser. C'est ce dont je veux parler en spécifiant ce que sont les secteurs économiques du Québec avec la consul dans quelques heures pour rendre ce message-là quelque part par le département d'État jusqu'à la Maison-Blanche en vue d'un déplacement qui devrait se faire au mois de septembre.
Le Bloc québécois va plancher sur quoi cet été?
Ah, c'est la tournée d'aller lire ce que le monde veut et pense.
Vous n'êtes pas en vacances, les politiciens, l'été?
Répétez-les pas à ma blonde, mais je ne suis pas super bon là-dedans. En fait, c'est que cet été, on va beaucoup parler aux gens, monter nos dossiers, mais on ne va pas ajouter des dossiers parce qu'on est en campagne électorale québécoise.
Ouais.
Et là, on ne veut pas créer de confusion. Les grands enjeux pour l'avenir du Québec vont être l'objet d'un vote le 5 octobre. Évidemment, les gens savent que nos sympathies sont du côté du Parti québécois, mais on ne va pas ajouter des ingrédients dans la sauce alors que les gens ne votent pas pour Ottawa, ils vont voter pour Québec. Moi, je ne prends pas les décisions stratégiques, puis je ne prends pas la responsabilité des décisions stratégiques, mais je vais être en soutien, puis j'ai déjà beaucoup de demandes de candidats du Parti québécois qui veulent que j'aille dans leur circonscription. Je vais faire ça en plus de mes rencontres d'usine, de maire, de tout ce que je fais.
Terminant, Jeff?
Oui, qu'est-ce que les gens vous disent sur le terrain à l'heure actuelle? C'est quoi leurs besoins, leurs priorités?
Les gens ont la crainte commerciale. Étonnamment, dans les milieux économiques, c'est pas ce qui sort en premier. Ce qui sort en premier, c'est la main-d'œuvre. Puis une main-d'œuvre, accès aux travailleurs étrangers, ça paraît beaucoup. Puis en général, les gens, ils disent bonjour, puis on est content de votre job. Mm-hmm. Faut que tu aies des rencontres plus élaborées. Avec le maire, il y avait quatre sujets, c'était précis, c'est là qu'on s'en allait. Avec la consul, ça va être la même chose. Puis avec le maire avec le grand chef Picard à Wendake, c'était beaucoup la fameuse statue.
Quand on parle de crainte de main-d'œuvre, ça vous fait-tu jaser un peu avec votre collègue Paul Saint-Pierre Plamondon sur l'ouverture, seuil d'immigration?
On n'est pas obligé d'être totalement d'accord sur tout. On est d'accord sur le fait que l'immigration doit être réussie. Et moi, j'ai rencontré l'UMQ, j'ai rencontré évidemment des entreprises, des chambres de commerce. Il y a un enjeu réel. Et il y a des assouplissements qui ont été apportés quand même. Il y a des enjeux réels d'avoir accès à la main-d'œuvre étrangère dans des secteurs de l'économie où l'expertise n'est pas là. C'est des soudeurs ou des métiers spécialisés. Ouais, on est en panne de ça ici. Il y en a à l'étranger. Ils veulent venir ici. C'est une pratique qui était assez bien encadrée, mais à force de modifier un paquet de petits trucs sous pression politique, c'est devenu n'importe quoi, ce programme-là. Nous, on dit qu'il faut le revoir, là. Il faut corriger temporairement un certain nombre de choses. Il faut revoir le programme pour que tout le monde, ceux qui craignent l'immigration, comme ceux qui ont des besoins économiques, soient confortables dans ce qu'on mettra en place. Parce que ça nous plaise ou pas, la planète est de plus en plus petite. Il va y avoir des migrations, il va y avoir des gens qui vont chercher des emplois. Si on fait semblant que ça n'existe pas, on va se planter. Et si on met en place des mesures pour les accueillir comme il faut, les intégrer, moi, je dis souvent, quelqu'un qui arrive au Québec, qui veut parler français, est aussi québécois que moi. Après ça, il faut rentrer cette philosophie-là pour que ce ne soit pas vu comme une menace. Moi, je ne me sens pas menacé dans mon identité par l'immigration. Si l'immigrant en question dit « moi, je m'en viens vivre au Québec, je respecte les valeurs du Québec, les lois du Québec, les principes d'égalité du Québec, la sensibilité environnementale du Québec et... » Fondamentalement, pour ça, l'outil numéro un, c'est la volonté de maîtriser la seule langue commune et nationale du Québec, c'est le français.
Et François Blanchette, c'est un plaisir. L'entrevue pour ce qui est du chef du Bloc québécois est terminée, mais je vais vous garder encore 30 secondes. J'ai une dernière question à vous poser. Je vais profiter du fait que vous avez été gérant d'artiste pendant des années et des années. Angine de Poitrine a fait fermer le site du festival de jazz en fin de semaine. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui étaient pognées à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Ce phénomène-là est incroyable. Ça part du Saguenay et là, mondialement, sont reconnus.
C'est même, à la limite, il n'y a pas si longtemps, on aurait carrément appelé ça de la musique alternative. Tu as de la musique alternative québécoise qui émerge de façon un peu spontané parce que les gars, ils ont mis un costume parce qu'ils ne peuvent pas faire deux fois le même show, là.
Exact.
Et ça devient un phénomène planétaire. Moi, ça me dit, les arts, la création, c'est quelque chose qui ne s'encadre pas.
Mais est-ce qu'ils ont un diamant entre les mains? Puis comment, en tant que gérant, on conserve ce diamant-là pour pas que tout le monde se prenne une partie?
Ouais, là, je pense qu'il faut que tu contiennes le flow parce que c'est tellement gros, c'est tellement mondial. Il faut que tu réussisses à l'opérer au maximum sans brûler ton public, sans brûler ton artiste. Que les gens y aient accès puis soient contents. T'sais, les Québécois veulent y avoir accès avant tout le monde, c'est chez nous, puis ils sont fiers de ça. Puis à Jonquière ou en tout cas au Saguenay, c'est encore pire. C'est extraordinaire comme phénomène. Puis il y a encore de l'extraordinaire création. Quand ils ont émergé avec la force qu'on leur connaît, les deux phénomènes dont on parlait le plus au monde en matière de musique, c'était la mise en vente des billets de Céline Dion à Paris et Angine de Poitrine. Deux phénomènes québécois. Puis il y a 20 ans, c'était encore Céline Dion, mais là, c'était le Cirque du Soleil.
C'est vrai.
Le Québec est une pépinière de talents incroyables qui a de moins en moins accès aux véhicules pour se faire connaître. Si Angine de Poitrine accompagnait leur musique de texte en français, peut-être qu'il n'y aurait pas le même succès parce qu'on n'a pas accès à des tribunes pour la création en français ou on a moins accès à des tribunes pour la création en français puis on a de moins en moins accès à des moyens pour la développer. Moi, j'ai connu l'âge d'or de la musique québécoise, le transit des années 2000. J'avais calculé mes affaires. Je voulais avoir le meilleur vendeur de l'année en l'an 2000. J'avais le Félix du meilleur vendeur de l'année avec Éric Lapointe en l'an 2000. C'était l'âge d'or. Puis après ça, ça s'est mis à décliner parce que les plateformes de consommation de culture sont américaines puis on leur donne congé de contribuer à la création des arts au Québec puis au Canada et au soutien des médias dans les régions au Québec qui sont de plus en plus fragiles.
Venez faire un tour plus souvent à Québec, M. Blanchette.
Ça va être un plaisir.
Merci beaucoup, François Blanchette, chef du Bloc québécois, qui était avec nous dans les dernières minutes. Vous avez des choses à nous dire? C'est le 88-971-1021, 88-971-1021. C'est par texto.
Moi, j'ai rien à vous dire parce que ça roule.
Ça roule à Monaco?
Ça roule.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation,